Frères et sœurs, mes chers amis, nous sommes rassemblés ce matin parce que nous avons répondu à l'invitation de Jésus en personne. Sa voix a retenti dans notre cœur et nous a mis en chemin. La vie chrétienne procède toujours ainsi d'un appel qui nous saisit et qui nous encourage à bouger. Pour arriver jusqu'ici, il nous a fallu quitter notre habitation, nos activités du moment, nos préoccupations peut-être, et notre cadre de vie habituel. Et lorsque nous sommes arrivés dans l'Église, nous avons aussitôt perçu que Jésus nous attendait. La petite flamme rouge du tabernacle, si discrète et si précieuse, si discrète qu'à la couture il faut la chercher un peu, mais elle est là quand même, manifeste à nos yeux l'éternelle présence de Dieu dans notre vie. Dieu qui se laisse voir, Dieu qui se laisse entendre, et même, quel étonnant mystère, Dieu qui se laisse manger. En célébrant aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, nous sommes encouragés à nous rendre aussi disponibles que possible afin que le Seigneur établisse en nous sa demeure par le don de sa parole et par le don de son corps eucharistique. Tout d'abord, il nous conduit jusqu'au désert où il désire nous faire vivre l'expérience de la simplicité et du dépouillement, un peu à la manière du peuple de la première alliance auquel s'adresse Moïse. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le désert est le lieu de la solitude et de la pauvreté, de la sécheresse et de la fatigue. Sa traversée ne nous laisse pas insensibles ni indemnes. Mais dans le désert, nous entendons Dieu qui nous parle. Nous l'entendons et nous pouvons l'écouter, non pas seulement lui prêter une oreille distraite et un peu lointaine, mais l'écouter vraiment. Dans le désert, Dieu confie à son peuple ses commandements et lui demande de les garder. Dans le désert, nous avons le temps de contempler, de réfléchir, de méditer. Il devient alors le lieu de la rencontre et du dialogue. Et le peuple hébreu y reçoit une double nourriture. La parole de Dieu, qui le guide et le protège, et la manne, qui lui donne force et réconfort. Pas à pas, au gré des épreuves et des émerveillements, au prix de détours et de quelques impasses, il prend conscience que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Et il continue à se laisser dépouiller de ses certitudes, de son confort, de ses ambitions, de ses peurs, de ses récriminations. L'homme comblé ne dure pas, chantera plus tard le poète inspiré. Il ne dure pas car il meurt d'être enfermé en lui-même. Ne cherchons pas à être absolument comblés de tout, car Dieu a besoin que nous laissions en nous un peu de vide pour venir le combler lui-même de sa présence. Du désert, nous passons ensuite au rivage du lac de Tibériade, à l'endroit où Jésus s'adresse aux foules des Juifs. Au désert, leur dit-il, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. La manne, en effet, était un aliment précieux mais provisoire. Elle fortifiait les corps fatigués, mais elle ne pouvait pas encore apaiser durablement les cœurs en attente. Et Jésus poursuit ainsi, Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » À cet instant, ses auditeurs ne comprennent pas et d'autres se révoltent. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Nous pouvons facilement comprendre de telles réactions, tant la perspective annoncée par Jésus paraît étrange et incertaine. Quelque temps plus tard, la veille de sa mort, que comprendront vraiment les apôtres en le voyant partager le pain et le vin et en l'entendant prononcer ces mots « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Ces quelques mots pourtant n'ont jamais cessé depuis lors de nourrir la vie des chrétiens. Et nous les recevrons à notre tour au cours de cette messe, car ils nous sont maintenant destinés. Ainsi, Jésus ne nous donne pas seulement quelque chose, mais il se donne tout entier à nous. Il nous fait le cadeau de sa présence véritable. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Nous ne cessons jamais d'apprendre à laisser Jésus demeurer en nous et à demeurer nous-mêmes en lui. Souvent, nous sommes emportés par toutes sortes de mouvements et d'urgences. Et Jésus nous appelle inlassablement à rester avec lui. En dernier lieu, saint Paul nous a posé une question décisive. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Le mot communion est magnifique et il comprend plusieurs significations. Il désigne à la fois la relation intime que nous pouvons avoir avec Dieu, l'acte de recevoir le corps du Christ, comme certains des enfants vont le vivre pour la première fois tout à l'heure, et encore la recherche de l'unité entre nous. Cette dernière dimension mérite d'être particulièrement soulignée. Le Seigneur appelle chacun d'entre nous à le suivre, et il nous appelle ensemble à former son propre corps. Nous ne sommes pas rassemblés simplement par hasard ni par commodité pour épargner à votre curé la peine de célébrer la messe dans chaque maison le même jour. Si la foi procède au tout départ d'une relation personnelle avec Dieu, elle ne devient pas une affaire privée. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans la foi, pour connaître Dieu et pour vivre la charité. Soyons honnêtes, nous avons parfois un peu de mal ou beaucoup de mal à nous supporter, et les divisions peuvent l'emporter sur la recherche de l'unité. C'est pourquoi, dans la prière, nous demandons toujours à Dieu la grâce de la communion. Et nous nous préparons ainsi ensemble à communier au même pain. Alors, nous commençons à comprendre ce propos lumineux du père Henri de Lubac qui disait ceci: « L'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie aussi fait l'Église. » Nous avons tous, frères et sœurs, à travailler à la communion au sein de l'Église et dans le monde, de sorte que nous devenions sans cesse le peuple voulu par Dieu, un peuple ardent à faire le bien. Amen.